Je veux revenir sur la question du fait que les trois fêtes, les trois régalim, les trois fêtes de pèlerinage, de Pessah, Shavuot et Sukkot, quand on en parle dans la tfila, alors on les Zman Chérutenu, Zman Matan Toratenu, Esman Simchatenu. Je me demandais donc, quand on dit que c'est Esman Toratenu, Esman Matan Toratenu, plus exactement, je me demandais est-ce que Matan est vraiment adéquat dans la mesure où Matan, ça veut dire le don, et quand on dit Chérutenu, Simchatenu, c'est ce qui nous concerne. C'est ce que nous avons vécu. Nous sommes libérés et nous sommes en joie et nous avons l'obligation d'être en joie. Et donc, quand on parle à Shavuot, c'est les choses vues de notre côté. De notre côté, il s'agit de Kabbalat Toratenu et pas de Matan Toratenu. Pas le don, c'est la Kabbalah, c'est la réception de la Torah. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de. Tout le monde ne pense pas que ce soit une vraie question. Certains disent que le mot matan veut dire tout l'événement, quoi. On ne fait pas le détail. D'autres veulent dire qu'en réalité, on parle de ce qu'Hachem a fait pour nous. C'est Hachem qui nous a libérés, c'est Hachem qui nous réjouit. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais j'ai pensé, on pourrait s'en sortir. Et de la manière suivante, nous, comme on l'a déjà dit, comme tout le monde le sait, quand Akadosh Baruch Hu a donné les. Il a parlé d'abord au Bnei Israël. Comment ça s'est passé? Ils sont arrivés au Sinaï, ils se sont purifiés et Hachem a parlé au Bnei Israël. Pourquoi est-ce qu'il a parlé au Bnei Israël? Le Bnei Israël s'était déjà engagé avec Naaseh Venishma, il s'était déjà engagé à obéir aux lois, aux mitzvot que Hachem allait leur donner. Donc, pourquoi il leur parle? Alors, Hachem lui-même a dit ça, il a expliqué à Moshe, je vais te parler, je vais te parler de telle sorte qu'eux vont entendre que je te parle. Et ça va avoir comme conséquence que quand tu leur diras Hachem m'a parlé, ils te croiront parce qu'ils auront expérimenté que je te parle. Et donc, je vais te parler et les Bnei Israël vont être à un niveau de prophétie tout à fait artificiel pour eux, dans lequel ils vont pouvoir entendre Hachem parler. C'est quasiment la prophétie, le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Et ils vont entendre qu'Hachem parle à Moshe Rabbeinu et Becha yaminu, Gam Becha yaminu leolam. Comme ça, ils auront aussi confiance en toi pour la suite des temps. Et effectivement, ça a été plus ou moins bien efficace, parce qu'il y a eu relativement peu de révoltes contre Moshe Rabbeinu en l'accusant éventuellement d'inventer des choses. Bon, il y a Korach, mais à part ça, c'est ça le gros morceau. Donc, ça a marché.
Comment ça se fait que là, ils ont supporté la voix d'Hachem? Ils regardaient nos chiffres pendant qu'on parlait, mais eux, ils ont entendu. Donc là, ils ont survécu, ils ne sont pas morts. Et après, quand Hachem va leur parler directement, c'est moi.
Non, mais quand Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu, en fait, il a parlé à Moshe Rabbeinu et eux ont entendu, c'est déjà les Aseret HaDibrot, quand ils l'ont. On ne voit pas qu'Hachem ait parlé à Moshe Rabbeinu pour que que les autres entendent autrement que quand il a parlé à Moshe Rabbeinu et qu'ils ont entendu aussi les deux. Donc le problème, c'est qu'ils allaient entendre ça, c'est Aseret HaDibrot, ce n'est pas une autre chose, c'est la même chose. Et donc. Donc, ils ont entendu. Ils ont entendu, mais. Attendez, il y a quelqu'un qui est en. Daniel Bismuth.
Et Slicha, à quel moment ils ont dit Naaseh
Avant,
Venishma?
ils ont
Avant
dit, avant
le
le,
troisième jour?
je crois le 4 Sivan.
Le 4 Sivan.
Oui. C'est-à-dire avant le, avant Matan Torah. Et le 4 ou le 5 Sivan, je crois. Avant le 6 Sivan. Et donc ils ont entendu. La parole, c'est ça le, disons, le don de la Torah, si on peut parler comme ça, ce qu'on appelle Matan Torah. Mais ce Matan Torah, en réalité, Akadosh Baruch Hu a décidé que après qu'il ait parlé, bon, ça s'est pas déroulé exactement comme Hachem le voulait, si on peut parler comme ça, mais bon, après qu'ils aient entendu les 10 paroles, deux directement d'Hachem et huit à travers Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï. Il est monté, il est parti pour 40 jours pour apprendre la Torah, pour apprendre cette Torah qu'il va devoir ensuite enseigner au Bnei Israël. Ça
Alors,
prend 40 jours.
on peut demander, et Moshe Rabbeinu était dans le clan Israël, parce que dans le Chumash, ce n'est pas très clair, oui, comment les choses se sont déroulées dans le temps, n'est-ce pas? Il y a les Shloshet Yemei Agbala, oui, et après, il y a 2 jours où il ne s'est passé rien, où ils ont dit Naaseh Venishma, et après, ils sont devant le Har Sinaï avec Moshe Rabbeinu, et ils entendent les Aseret Yadibrot.
Voilà, puis ensuite, ils disent, on a trop peur, c'est toi qui
Ouais.
vas nous voir et nous parler. OK. Ceci étant terminé, on reviendra là-dessus, mais ceci étant terminé, Moshe monte pour 40 jours sur le Sinaï pour apprendre la Torah. Les principes généraux ont été énoncés dans les Aseret HaDibrot. On sait que de ces Aseret HaDibrot, on peut déduire, disons, toutes les autres mitzvot, c'est ce fameux travail qui a été fait par Rav Sadia Gaon au Xe siècle. Et en tout cas, à ce moment-là, peut-être qu'il a été fait avant aussi. Et Moshe Rabbeinu nous montre 40 jours. Pendant 40 jours, il étudie la Torah. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à l'intégrer. Il n'y arrive pas. Alors, au 40e jour, Hachem lui dit, OK, ça suffit, je te la donne. Je te donne la Torah. C'est-à-dire, tout va se passer désormais comme si tu l'avais apprise. C'est aussi une façon de dire, l'être humain, même Moshe Rabbeinu, même sur le Sinaï, même avec, comme Rebbe, Akadosh Baruch Hu, l'homme ne peut pas apprendre tout seul la Torah. Même avec la Siyata d'Ishmaïa qu'il y avait spécialement, c'est impossible la totalité de la Torah. Et à ce moment-là, donc, Hachem lui donne la Torah et il lui donne aussi, il va lui donner les Louchot, c'est-à-dire la mise par écrit, plus exactement gravée, de ces paroles qu'Hachem avait déjà dites, que les Bnei Israël ont entendues oralement et maintenant, on leur donne le document écrit, quoi, si on peut parler comme ça, une espèce de double contrat. Le contrat a été fait oralement et ensuite on leur donne le contrat écrit, une trace de ce qui a été dit. En vérité, dans ces premières louchot, effectivement, il n'y a que ça qui a été écrit, mais d'une manière que on comprend pas. Mais en fait, toute la Torah orale était aussi d'une certaine manière lisible sur ces tables. Hachem est en train de lui donner, et au milieu du moment où il est en train de lui donner, tout à coup Hachem dit à Moshe, Descends. Descends du Sinaï. Kishichet Amcha. Parce que ton peuple s'est fourvoyé. Alors Moshe lui dit, pourquoi tu dis mon peuple? C'est ton peuple, le peuple d'Israël. C'est ton peuple. C'est pas le mien. Alors Hachem lui dit, non, c'est vraiment le tien. Parce que c'est le Erev Rav. Et c'est le Erev Rav, et moi je t'avais dit de ne pas les prendre. Et toi, tu as pensé que, bon, si ils ont l'air sincères, pourquoi pas, on peut les prendre avec. On les a pris. T'as voulu... Et ben voilà ce que ça donne. Et ils se sont fourvoyés, ils ont entraîné tout le peuple avec eux. Et donc Hachem ne lui donne plus la Torah. Mais en fait, Chazal disent que quand Hachem lui a parlé, Moshe tenait 20 cm des louchot, Hachem tenait, si on peut parler comme ça, 20 cm, et il y avait 20 cm au milieu, puisque c'est a priori, c'est des tablettes carrées de 60. Et Moshe Rabbeinu a tiré les louchot, il a arraché les louchot d'Akodungo. Et il descend avec les louchot. Et quand il arrive à un moment dans sa descente où il voit ce que font les Bnei Israël, alors il décide de casser les louchot. Et il casse les louchot. Bon, il le fait, c'est une initiative personnelle. C'est assez énorme. Il est en train de casser des louchot qu'Hachem a fabriquées. C'est les louchot qui sont le socle lui-même au départ était un socle d'origine divine. Aujourd'hui, il n'y a plus de socle puisque les tablettes sont écrites de part en part. Bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de socle. D'accord? Puisque c'est de part en part et c'est lisible des deux côtés. Bon, enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Et il brise tout ça. Puis ensuite, il descend, il règle le problème, on va tuer les gens qui ont fait Avodah Zarah, etc. Mais seulement, Hachem a dit que, à partir du moment où les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Hachem les a condamnés à mort. C'est terminé. Je ne continue plus avec ce peuple. Il a même proposé à Moshe Rabbeinu de commencer un nouveau peuple avec lui. Une proposition que, comme vous savez, Moshe Rabbeinu n'a pas acceptée. Et Moshe Rabbeinu, il a en quelque sorte joué son va-tout. Il a dit à Hachem, ou tu leur pardonnes, ou tu peux m'effacer de ton livre. Alors ça a duré un certain temps, même assez longtemps. Moshe Rabbeinu, à plusieurs reprises, il est remonté pour négocier avec Hachem au Sinaï. Et Hachem était intraitable. Non, c'est non. Et finalement, la troisième fois, tout à coup, Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il a senti que le non n'était plus aussi inflexible. Tout à coup, il y a une possibilité. Et puis, 10 jours après, Hachem a cédé et il décide de leur redonner, il leur redonne les louchot. Il dit à Moshe, bon, on va redonner les louchot, seulement cette fois-ci, c'est toi qui dois donner le support des louchot. Donc, c'est le support des louchot sur lesquels Hachem dit, je vais écrire, je vais graver, comme je l'ai fait sur les premières louchot, mais c'est toi qui donnes le support. Alors voilà, c'est ce qui se fait. Et Hachem a gravé exactement ce qu'il y avait sur les premières louchot. Sauf que sur ces deuxièmes louchot, on ne peut pas, en regardant ce qui est gravé, on n'apprend pas Torah chez Baalpé. Torah chez Baalpé, il va falloir la travailler à part.
Dans la première, le texte sur le
Dans
papier.
les premières, on n'avait pas vraiment besoin de travailler, ça se lisait de cette manière. Et alors, Hachem décide de leur donner. Ce jour-là, c'est le 10 Tichri, ce jour-là va devenir Yom Kippour. Il va être le grand pardon parce qu'effectivement, ça correspond au pardon d'Hachem. Hachem, cette fois-ci, on sait qu'Hachem a pardonné. D'autres disent qu'en vérité, on ne saura vraiment qu'Hachem a pardonné, c'est-à-dire on a vraiment retrouvé la situation qui était recherchée seulement avec le Mishkan. Ça, c'est la chita du Ramban qui pense que de toute manière, on devait avoir un Mishkan. Il fallait qu'il y ait un Mishkan. D'autres pensent que le Mishkan n'a été donné que parce qu'ils ont fait le veau d'or et c'est une faiblesse. Et suite à cette faiblesse-là, en quelque sorte, Hachem a donné le Mishkan. Alors, quand Hachem a donné ses louchot, comme vous savez, il a en même temps donné il a donné un deuxième nom divin. Parce que le premier nom divin, le tétragramme, bien sûr que c'est un nom, mais que il correspond aussi, il y a une lecture de ce qui est écrit dans le Yud-Ké Vav-Ké sous la forme de Aya Ove Veiyé, c'est-à-dire le verbe être à tous les au temps, au passé, au présent, au futur, et Mehavé Akol. Et Hachem, avec ce nom-là, il fait exister chaque chose. Seulement ce premier nom divin qui a été donné à l'époque disons, de Moshe Rabbeinu, c'est une anaga que les Avot n'avaient pas. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, les Avot, ils ne m'ont pas connu sous ce nom-là. Je rappelle, en passant, que, disons, on va dire comme ça, il n'y a pas de nom divin. Ça n'existe pas, les noms divins. Hachem n'a pas de nom. Ce qu'on appelle nom divin, ce sont des indications qui sont données sur la façon dont Hachem gouverne les mondes, y compris le nôtre. Alors, ce premier nom divin, il fait exister les choses, mais il ne fait exister les choses que dans la mesure où ces choses-là, les hommes en particulier, ne font pas des fautes extrêmement importantes. Or, la faute qu'ils ont faite est considérée comme extrêmement importante, et par conséquent, le ticket n'est plus valable. C'est-à-dire, ce nom divin qui leur permettait d'exister, ce nom divin-là ne leur permet plus d'exister. C'est ça qui a été dit quand Hachem a dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Mais quand Hachem donne les deuxièmes tables, il donne une deuxième version, enfin une deuxième mouture de ce même nom divin. C'est-à-dire, c'est une deuxième occurrence. Exactement le même nom divin, seulement celui-là, il donne la vie, l'existence, même si on a fauté. Celui-là, il ne limite pas l'existence.
Mais c'est le nom. C'est
C'est le
le
même
nom.
nom, mais celui-là, il n'est ouais, pas attaché à. Il est Mehavé Takol, mais définitivement.
Quand Hachem va détruire l'Ibn Israël, mais Moshe est un Ben Israël.
Oui, mais il va détruire le clan Israël. On peut imaginer qu'il y ait des gens qui pourraient survivre, mais il n'y a plus de clan Israël. Cette notion de clan Israël, qui est une notion abstraite, elle n'existera plus.
Est-ce que ça veut dire qu'il
Le
est assez
projet divin est à l'eau.
oui.
Voilà, c'est ça. Alors, une fois que Hachem a pardonné et qu'on a un deuxième nom divin, des nouvelles tables, ces tables-là, on va les mettre dans la boîte, dans le haron qui a été fabriqué pour ça. Quand on a fabriqué le Mishkan, on a fabriqué aussi la boîte pour les loukhot. On va y mettre les deuxièmes loukhot. On va y mettre aussi les brisures des premières loukhot. Et on va y mettre un Sefer Torah. Et puis on va fermer la boîte avec son couvercle, avec ses kruvim dessus sur le couvercle. Cette boîte-là, on ne la verra plus jamais. Bon, même Aaron qui va entrer dans le Kodesh HaKodashim, il n'ouvre pas la boîte. Il est face à la boîte, mais il n'ouvre pas. Donc, si vous voulez, on sait qu'elle est là, on sait que les lochot sont là, mais on va plus jamais les consulter. C'est tout. Voilà. Voilà.
Et c'est le premier séparateur de toute l'histoire.
Alors, l'idée, c'est ce troisième, ce Sefer Torah, lui, c'est un peu plus ambigu parce qu'en réalité, c'est un Sefer Torah qui pourrait servir de modèle pour tous les Sifrei Torah. Il faut bien un modèle pour écrire. Alors ça, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Si on peut-être que, comme Moshe Rabbeinu a écrit les 13 Sifrei Torah, il y en a un qui était pour lui, qui était... Est-ce que c'est celui-là qu'on a mis dans la boîte? Et donc, on a rouvert la boîte au moment où Moshe a écrit le livre, ce Sefer-là, et on a mis le Sefer dedans. Et auparavant, Moshe avait écrit 12 Sifrei Torah qu'il a donné, il a donné à chaque tribu. Donc, voilà, on a les modèles. Les tablettes. Non, il n'y a pas la Torah. Il y a les 10 commandements, c'est tout. Qui? Hachem lui a dicté la Torah au fur et à mesure. Alors, c'est une discussion, est-ce qu'il a écrit tout à la fin ou est-ce qu'il a écrit au fur et à mesure? Bon, ça, c'est toujours des questions techniques qui ont été débattues. Ça, c'est bien après. Non, c'est bien après. Le Sefer Torah, il a été écrit durant toute la vie de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est à la fin de la, à la fin de, j'ai dit qu'on mettait dans cette boîte cela, mais le Sefer Torah, je pense qu'on a pu le mettre qu'à la fin, puisqu'il n'a pas été écrit avant. Donc, ça veut dire, il y a une fois où on a ouvert la boîte pour y mettre le Sefer Torah.
Donc, personne n'a vu les premières louchotes. Parce que
Pardon? Il y avait
personne n'a vu les premières louchotes.
une des premières loupotes.
Elles ont été brisées avant que ça arrive en bas. Les
Pas
premières
compris.
louchotes. Les premières louchotes. Elles ont été brisées avant que ça arrive en bas. Donc, personne, à part Moshe Rabbeinu, n'a vu les premières louchotes.
Non, jamais personne. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais reçus. D'une certaine manière, si vous voulez, ce que je voudrais essayer de dire, c'est que il y a eu Matan Torah à Shavuot. Mais la Kabbalat à Torah, elle a peut-être eu, on peut peut-être dire qu'elle n'a eu lieu qu'à Kippour. Et comme ça, on comprend pourquoi à Shavuot, on dit que c'est Matan Torah Tenu et pas Kabbalat Torah Tenu. Parce que la Kabbalah, la réception réelle, où on a tout eu, ça veut dire après qu'on ait entendu les paroles et qu'on les ait reçues, écrites, gravées sur les tablettes, ça c'est seulement à Kippour. Parce que jusque-là, on a eu des brisures éventuellement, mais jamais les entières, sauf Moshe Rabbeinu qui a dû les voir quand Hachem les lui a donné. Mais après, il les a brisées. Donc plus personne n'a vu les premières louchotes entières. Vous pouvez comprendre que Hachem a laissé Moshe Rabbeinu les prendre. Non, elles n'ont pas été. Hachem ne lui a pas donné l'ordre du tout de les briser. C'est lui qui les a brisées. Et Hachem lui a dit, c'est bien, Yasher Korah, mais après coup. Hachem a dit, t'as bien fait. Mais Hachem ne lui a jamais donné l'ordre de le faire. Donc, ça veut dire que quand il a pris les louchot et qu'Hachem, évidemment, l'a laissé prendre les louchot, Hachem ne s'est pas opposé que Moshe, s'il n'avait pas brisé, il aurait pu leur donner les louchot ou bien les garder dans son coffre-fort jusqu'à ce que le problème du veau d'or se soit apaisé.
Et Moshe qui teste la Hachem,
Quoi?
est-ce qu'en faisant ça, en laissant faire, est-ce que Hachem teste Moshe ou est-ce que c'est nous qui pouvons apprendre quelque chose?
Non, mais c'est sûrement nous qui pouvons apprendre quelque chose. Hachem n'a pas, on ne voit pas qu'il ait testé Moshe. Parce que, oui, il a laissé faire, ça veut dire il a laissé. Bon, ça va maintenant, les hommes sont libres, c'est la Bechira. Tu peux ou les laisser et les donner au Bnei Israël, même dans l'état dans lequel ils sont. La raison pour laquelle Moshe les a brisés, c'est parce que lui, il pensait que ces louchot, quand elles étaient entières, était une accusation trop insupportable contre les Bnei Israël. Et l'amour de Moshe Rabbeinu pour le clan d'Israël a fait qu'il a préféré les casser. C'est comme si on casse le thermomètre, quoi, quelque part. Il a cassé le thermomètre. C'est en général, c'est pas très efficace pour guérir. D'accord? Donc on peut se demander qu'est-ce qu'on a gagné à casser le thermomètre. Mais il voulait pas qu'il y ait un document accusateur, quoi. Quelque part que les Bnei Israël soient accusés par ce qu'ils avaient, ce à quoi ils s'étaient engagés, ce qu'ils ont entendu oralement, etc. Okay, mais qu'il n'y ait au moins pas de document à leur mettre. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Hachem vous a donné les louchot et qu'est-ce que vous avez fait, vous? Vous avez transgressé ce qui est écrit dans ces louchot. Quand les Bnei Israël ont entendu ce qu'Hachem leur a dit, comme vous savez, la première parole qu'ils ont entendue, dans laquelle Hachem se présente en quelque sorte, où il dit, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et le Rabbi Yehuda Lévi ou d'autres posent la question, pourquoi il ne se présente pas en disant qu'il est le créateur? A priori, c'est plus d'être créateur du monde que d'avoir sorti un petit peuple d'Égypte. Alors, une des réponses, c'est que les Bnei Israël avaient expérimenté la sortie d'Égypte, ils ont expérimenté l'action divine dans la sortie d'Égypte, le fait qu'Hachem soit le créateur, personne n'était là pour le voir, et c'est il y a très longtemps, ça ne leur parlait pas spécialement. Donc, Hachem décide de se présenter en faisant appel à quelque chose qu'ils ont vécu. Ça veut dire, je vous parle de quelque chose que vous avez vécu il y a 50 jours. Ensuite, les Bnei Israël ils ont donc reçu complètement, on peut dire, l'opération Matan Torah est complètement terminée. Il y a eu un Matan. Et il y a eu une Kabbalah. Sous forme de. Si on considère que de recevoir les louchot, c'est la fin du processus du don de la Torah, voilà, c'est terminé. C'est terminé à Yom Kippour. Donc ça a duré 2 Shavuot, du mois de Sivan, Tammuz, Av, Elul, et 10 jours en Tishri. Alors, cette fête de Shavuot, du Matan Torah, elle est curieusement, Chazal, on a vu, Chazal ne l'appelle toujours que Atzeret. Il l'appelle presque jamais Shavuot. Pourquoi? D'abord parce que Shavuot, c'est un drôle de nom. D'abord, la fête des semaines. Bon, c'est pas un nom, quoi. C'est pas. Mais donc, bon, c'est pas, on passe à la raison. La raison, c'est pourquoi ils ont préféré Atzeret, parce qu'ils ont voulu donner un contenu à Shavuot. Parce que le contenu de dire que Shavuot, c'est Matan Torah, c'est marqué nulle part dans la Torah. Nulle part dans la Torah, il est écrit que quand la Torah a été donnée. Enfin, c'est marqué nulle part. Torah a caché la date où la Torah a été donnée. Si, au fond, c'était pas tellement important en tant que date, parce que, et en plus, ça n'est pas une date du calendrier, puisque à cause de la mitzvah, la première mitzvah que nous avons reçue, elle a rendu impossible de fixer une date pour Shavuot, dans la mesure où on a dit que Shavuot doit être à 50 jours de Pessah. Et donc, obligatoirement, dans les 50 jours en question, il y a deux nouveaux mois qui sont commencent. On termine Nissan, on commence Iyar, on termine Iyar et on commence Sivan. Donc, c'est deux occasions où, effectivement, on ne sait pas si le mois passé va être un mois à 29 ou un mois à 30 jours. Et par conséquent, selon que les mois seront tous les deux à 29, tous les deux à 30, ou l'un à 29, l'autre à 30, le Shavuot, dans le calendrier, dans la date, va être le 5, le 6 ou le 7 Sivan. À part le fait que, toute chose égale par ailleurs, à partir du moment où mon cher Rabbeinu a ajouté un jour, et que dans le projet divin, Matan Torah, ça devait avoir lieu le 6 Sivan, qu'on sait que ça devait avoir normalement lieu le 6 Sivan à cause du Yom HaShishi, la dracha sur Yom HaShishi, qu'on ne peut pas faire. Enfin, c'est quand même une dracha qui admet que Matan Torah sera le 6. Alors que, comme on vient de dire, c'est pas sûr du tout. Alors, les Bnei Israël, dans cette fête de Matan Torah qui correspond dans la Torah à rien du tout. Alors ils ont cherché à quoi ça correspond dans la Torah. Et dans la Torah, ils ont décidé que Shavuot était la Atzeret de Pessah. Vous vous souvenez, on l'a dit, je crois, mais je vais le répéter. Les fêtes de pèlerinage ont une Atzeret. C'est-à-dire, ils ont une fête de clôture qui est une occasion de se réjouir, voilà, parce que on a fait la fête qui nous avait été prescrite et on l'a bien faite. Alors, effectivement, le septième jour de la fête de Pessah est appelé dans la Torah Atzeret. Donc, c'est difficile de dire que Shavuot, c'est la Atzeret de Pessah, puisqu'il y a déjà une Atzeret de la fête de Pessah qui est écrite explicitement dans la Torah. Mais en fait, il faut comprendre que la Atzeret qui est le septième jour de Pessah, c'est la Atzeret de Chag HaMatzot. Parce que, en fait, nous, on fait un peu un abus de langage en appelant Pessah toute la fête, les 7 jours que nous on appelle le Pessah, alors que, à part le premier soir, ça n'a rien à voir avec Pessah. Ça s'appelle Chag HaMatzot, c'est la fête. La caractéristique de cette fête-là, c'est qu'on mange des matzot. Si tu veux manger du pain, tu n'es pas obligé, mais si tu veux manger du pain, tu dois manger des matzot. Ensuite, donc les Hachamim ont jugé que c'était une Atzeret. Alors Atzeret de quoi? Alors Atzeret de Pessah. Atzeret donc du premier soir, si vous voulez, du premier jour, par extension. C'est déjà une extension d'appeler le premier jour Pessah. Parce que déjà après le matin, une fois qu'on ne peut plus manger le Coran de Pessah, il n'y a pas de raison de continuer d'appeler le temps qu'on est en train de vivre Pessah. N'a plus rien à voir avec Pessah. Alors, dire que Shavuot, c'est la fête de clôture de Pessah, donc, c'est pas complètement nouveau, si vous voulez, dans la mesure où Shmini Atzeret est aussi une Atzeret en dehors de la fête. Le septième jour de Pessah, c'est une Atzeret à l'intérieur des 7 jours de la fête. Mais Shmini Atzeret n'est pas dans Sukkot. C'est un abus de. Je sais pas quoi. La Torah, elle a décidé de l'appeler Shmini Atzeret. On l'appelle Shmini, mais il n'est pas Shmini. Il n'est pas, il n'y a pas de Shmini. Il n'y a pas de 8 jours de Sukkot. Ça n'existe pas. Mais il apparaît comme le 8e jour. On a compté tous les jours de Sukkot. Et maintenant, on est arrivé au 7e jour. Le après, on l'appelle 8e. Mais c'est lui la Tseret. Donc une Tseret en dehors de la fête, ça existe. Elle est seulement décalée d'un jour. Maintenant, on l'a décalée de 50 jours. OK. Mais du coup, il faut se demander dans ce cas-là, quel est le statut de la période qu'il y a entre Pessah et Shavuot, puisque il faut regarder quel est le statut du laps de temps entre la fête et sa clôture. Et pour certains, comme le Ramban et d'autres, cette période-là est considérée comme une sorte de Chol HaMoed. D'accord? Entre le premier et le dernier jour de la fête, c'est Chol HaMoed. Avec des dynimes de Chol HaMoed. Par exemple, qu'on ne peut pas se marier. Par exemple, qu'on ne peut pas se raser. Etc. C'est des dynimes de Chol HaMoed, ce n'est pas des dynimes de deuil en tant que tel. D'accord? Dans la Torah, il n'y a pas trace de deuil dans toute cette affaire, dans toute cette période. Elle n'a rien à voir avec le deuil. C'est une période de préparation pour la fête de clôture. Et cette fête, elle est la clôture de Pessah, parce que qu'est-ce que c'est que Pessah? Qu'est-ce qu'on a fait à Pessah? À Pessah, ce qu'on a fait de fondamental, c'est qu'on a mangé l'idole égyptienne. Donc on a pris la distance maximale avec l'idolâtrie. Oui, comme c'est pas halakhiquement comme ça, c'est dans l'idée, c'est un Chol HaMoed. Et il y aurait, si tu veux regarder les dynimes, c'est les dynimes de Chol HaMoed. Maintenant, on n'a pas personne a dit halakhiquement qu'on savait un dîne de Chol HaMoed.
Mais on fait quoi avant toute la période qui est venue évidemment après, mais jusqu'à la Baba Omer, on considère quand même une période de deuil. Après, selon l'histoire, on va
Alors
faire quoi
on va y
par
venir, on va
là?
en parler. Et à ce moment-là,
La Tseret des Shavuot, ça serait Yom Kippour?
non, non. Ah, il n'y a pas d'Atzeret à Shavuot parce que il y a pas d'Atzeret pour
Pour Shavuot.
d'une manière. Shavuot est déjà une Atzeret de quelque chose. C'est ça la chidouche des Chachamim. Vous considérez Shavuot comme étant une Atzeret de quelque chose d'autre et pas une, comme si c'était pas une fête pour elle-même, quoi. Attendez, il y a quelque chose, il y a du monde dans On était où? Ah, c'est toujours Claude. Claude, ah, oui. Voilà. Ouais, elle est là.
Merci, je suis là.
Ah, elle est là, Claude. Voilà.
Je suis là, mais excuse-moi pour les problèmes.
Bon, d'accord, je t'en prie. C'est deux fois. Tu es une fois dans la waiting list, dans la waiting room, et une fois sur l'écran. C'est vraiment. Prendre la place, hein? D'accord.
J'ai insisté, hein? Et avec
D'accord.
ça, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Merci.
D'accord. D'accord. Et donc, c'est une Atzeret. Et du coup, la période entre les deux, elle doit servir à quelque chose. On va préparer la fête. Donc, la préparation, c'est qu'on. Et du coup, la Torah. Elle a donné un statut à cette période. Statut du Homer. Alors, fondamentalement, cette période du Homer, elle consiste à compter les jours et compter les semaines. C'est-à-dire, en fait, donner de l'importance à ce temps qui passe. Voilà, est-ce que c'est une façon de se dire à quelle distance de Shavuot est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on est bientôt, il nous reste encore du temps pour se préparer ou pas? On aurait pu penser, d'ailleurs, si c'est comme ça, qu'on compte à l'envers. On aurait pu dire, d'accord, il nous reste 48 jours, 47 jours, etc. La préparation est une préparation un peu particulière parce que quand on a dit que les Bnei Israël étaient pratiquement à la hauteur de Moshe Rabbeinu quand Hachem parle à Moshe Rabbeinu pour qu'ils entendent, donc ils sont dans les voisinages de plus 49, quoi, et ils étaient à moins 49 en Égypte. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis en catastrophe. Alors, il y a une grande discussion. Certains veulent dire que la raison pour laquelle on est sorti en catastrophe 49e, c'est parce qu'on risquait de tomber au 50e. Mais il y a des grands maîtres qui considèrent qu'il n'y a pas de 50e degré d'impureté. C'est sur ce point-là. Il y a une transgression. On n'applique pas la règle de zé le oumat zé. C'est-à-dire qu'il y ait dans le positif la même chose que dans le négatif comme le positif, c'est vrai jusqu'à 49. Le 50e, il existe un 50e degré de pureté ou de charébina, mais il n'existe pas, d'après le Gaon et d'autres, il n'existe pas. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais il n'existe pas 50e degré. Et donc, c'est le 49e degré qui était déjà insupportable et déjà comme ça, ils allaient mourir s'ils se remplissaient complètement. Alors, on va se préparer. Mais vous savez bien que si on veut passer de moins 50, moins 49 à plus 59, plus 49, il faut plus que 49 jours si on veut faire un par jour. D'accord. Donc, ça veut dire que les Bnei Israël, durant cette période, ils ont dû faire à la fois un travail pour remonter de moins 49, moins 48, moins 45, moins 30, etc., jusqu'à zéro, et en même temps un travail de construction depuis 0 ou 1 jusqu'à 40, plus 49. Le même jour, ils font deux choses. Mais ce n'est pas tout à fait contradictoire dans la mesure où, effectivement, il faut faire à la fois un travail pour se sortir de l'idolâtrie. Sortir des moins, des négatifs, ça veut dire s'arracher à l'idolâtrie. Donc, l'Ibn Israël était fortement idolâtre en Égypte. Et il faut qu'il sorte de cette idolâtrie complètement. Alors, c'est vrai qu'ils ont mangé on a mangé à Pessah, on a mangé, on a manifesté qu'on était dehors. Mais on n'en a jamais fini avec l'arrachement de l'idolâtrie. La preuve, c'est que nous continuons de faire une bracha tous les jours pour demander à Hachem de nous aider à nous sortir de l'idolâtrie. D'accord? Parce que la bracha de Shelo Asani Goya, comme vous dites, ou je ne sais pas comment vous dites, Onochia ou Oved Kochavim, je ne sais pas ce que vous dites, peu importe. C'est une bracha que certains considèrent comme un remerciement. Je remercie Hachem de ne pas m'avoir fait idolâtre. Mais d'après, maintenant que vous faites du Nefesh HaChaim, vous vous souvenez qu'on a vu dans Nefesh HaChaim que pour lui, le mot Baruch ne veut pas dire, c'est pas un remerciement, mais ça veut dire, le mot Baruch veut dire amplifié. Et donc, nous demandons à Hachem d'amplifier notre non-goïtude, notre non-goïtude. Nous ne sommes pas goïm, amplifie ça. Ça veut dire qu'on n'a jamais fini de s'arracher à la goïtude, à l'idolâtrie d'une certaine manière. De même qu'on n'a jamais non plus fini de s'arracher à l'esclavage, toujours esclave de toutes sortes de choses, y compris de nos désirs, etc. Et là non plus, là aussi, on demande à Hachem de nous aider. Donc, les Bnei Israël ont commencé par faire un acte qui montre qu'effectivement, ils ont pris de la distance, mais bien qu'ils aient pris cette distance, vous savez bien que après qu'ils aient mangé le Corban Pessah, ils se sont trouvés devant la mer, et au moment de la mer, quand Hachem a fait un miracle et qu'il les a sauvés, les anges ont dit, mais pourquoi tu sauves ceux-là et tu noies les Égyptiens? Les uns sont idolâtres, mais les autres aussi. D'accord? Donc, les anges considèrent les Bnei Israël comme idolâtres, bien qu'ils aient mangé l'idole. Voilà, c'est bon, c'est joli, c'est un beau, c'est un acte courageux, etc. Mais le travail intérieur n'est pas fait pour autant. Ce travail, il prend tout son temps. Alors, il y a donc ce travail pour passer de Pessah à Shavuot, de passer de la fête de Pessah à la Tseret de cette fête, durant laquelle on se comporte d'une certaine manière. Il y a un peu de, il y aurait eu un peu de à la fois, mais l'essentiel étant de compter le temps, de remarquer les différentes étapes. Alors ensuite, cette période-là, elle a été surconnotée en quelque sorte. Il s'est trouvé par un malheureux concours de circonstances, si on peut parler comme ça, que durant cette période, la Gemara nous rapporte que Rabbi Akiva avait d'abord, il avait une quantité astronomique d'élèves. Il avait 12 000 paires d'élèves. Pourquoi on parle de paires? Parce que l'étude, ça se fait en chavruta à deux. Donc on parle de paires d'élèves. Donc ça veut dire qu'il avait 24 000 élèves. Et on décrit ces élèves du nord et au sud d'Eretz Israël. Mais la yeshiva de Rabbi Akiva, elle n'était pas du nord au sud, elle était un endroit bien précis. C'est une façon de dire qu'il y avait des élèves de Rabbi Akiva qui étaient toujours élèves de Rabbi Akiva, même s'ils n'étaient plus à la yeshiva chez Rabbi Akiva. C'est toujours des élèves. Et ces élèves sont morts durant un court laps de temps. Alors, on dit deux choses. On dit d'abord ils sont morts parce qu'ils ne se donnaient pas du kavod l'un à l'autre. Ne pas se donner du kavod, c'est-à-dire ne se donner pas de poids, c'est-à-dire il ne s'attachait pas à aider l'autre en lui donnant du poids, pour de très bonnes raisons, mais bon, c'est pas bien. Et puis ensuite, on nous dit comment ils sont morts. Ils sont morts de diphtérie, enfin de Ascara. Et la Ascara, ça se traduit par diphtérie. Alors évidemment que hein, cette proposition ne peut pas tenir la route. Parce que je crois, je pense que vous serez d'accord, que je ne sais pas si c'est un virus ou ce que c'est, la diphtérie, mais ce truc qui amène la diphtérie, il n'est pas censé faire la différence entre Rabbi Akiva, les enfants, les élèves de Rabbi Akiva et le reste du monde. D'accord? C'est une notion de médecine qui n'existe pas. Pas possible.
Non, pas possible, mais les terrains ne sont pas les mêmes, c'est peut-être là que
Alors, le problème, c'est que si c'était de la diphtérie, il doit y avoir beaucoup d'autres gens qui sont morts. Alors, depuis quand est-ce qu'on ne tient compte de la mort que des élèves de Rabbi Akiva? On va être triste, peut-être plus triste parce que à cause des élèves, mais on va être triste pour tous les Juifs qui sont morts. Donc, on devrait dire combien il y avait de morts. On dit pas ça. Alors, j'ai entendu un enseignement qui est très intéressant. dit la chose suivante. La communauté tunisienne, une très 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 vieille communauté. Et cette communauté, au début, quand ils avaient des problèmes, des questions, ils faisaient comme tout le monde à l'époque, on envoyait les questions à ce qu'on appelle les géonimes. Les géonimes, ce sont les maîtres du clan Israël qui, entre la clôture du Talmud, c'est-à-dire le 5e siècle, si vous voulez, et disons l'an 1000, à peu près. Pendant cette période-là, les grands maîtres sont en Irak. Ils sont auprès de la yeshiva de Soura, de Koumpédita. Ce sont deux grandes yeshivas. Il y a aussi plein d'autres gens qui étudient, mais c'est les grandes yeshivas-là. Et là-bas, il y a des grands maîtres qu'on appelle les Gaonim. On appelle Rav Haïgaon ou Rav Shriragaon, etc. Et donc, ils ont posé des questions à ces Gaonim. Et ils sont devenus assez proches d'un des Géonim. Un de ces Géonim a écrit une lettre dans laquelle il décrit l'histoire du clan Israël jusqu'à son époque. Et il parle évidemment de ce qui est arrivé aux élèves de Rabbi Akiva. Et il écrit que ses élèves sont morts de Shmad. Shmad, c'est les persécutions qui ont été faites pour tuer les Juifs parce qu'ils sont juifs. C'est un mot qui a été utilisé à toutes sortes de situations, mais dans la Gemara, quand on parle de Shmad, c'est une chose bien précise, c'est la guerre des Romains contre les soldats de Bar Kokhba. Comme vous savez, les soldats de Bar Kokhba ont été massacrés à s'appelle bah.
À Bétard.
Bétard.
Ah, merci. À Béthar, et les Romains avaient même interdit qu'on les enterre, etc. Ça, c'est un problème dont on parle quand on parle de Tou B'Av. Pourquoi il y avait une grande simcha à Tou B'Av? Parce que c'est le moment où on nous a permis de les enterrer. Alors, pourquoi lui il écrit que c'est des Shmad et nous on écrit qu'ils sont morts de diphtérie? Alors, en réalité, il y a un grand maître, un maître il y a deux générations, je vois, qui a donné la clé de la chose. Il a dit que, je crois, en arabe et en araméen, le mot Azkara veut dire soldat. Alors, le mot Askara veut dire à la fois diphtérie, et il veut se dire soldat. Seulement, quand on a écrit la Gemara dans laquelle on dit qu'ils sont morts de diphtérie, on était sous la domination romaine. Et on ne pouvait pas écrire que les élèves de Rabbi Akiva ont été tués par les soldats romains. Alors, les Chachamim, ils ont trouvé ce truc génial d'écrire Ascara, c'est la diphtérie, mais ceux qui savent lire, ils comprennent qu'ils sont niftar dans le Shmad, c'est-à-dire dans la guerre contre Bar Kokhba et ses soldats, parce que les élèves de Rabbi Akiva ont été encouragés par Rabbi Akiva à aller faire la guerre. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva, il pensait que Bar Kokhba pouvait être Mashiach, même, le Mashiach. Mais bon, ça n'a pas. Il n'a pas tenu la distance, Bar Kokhba, ça a mal tourné, donc effectivement, ils ont perdu probablement un Siyata Dishmaya, ou je ne sais pas. Donc, c'était l'opinion de Rabbi Akiva d'aller, il fallait faire la guerre. On en avait parlé déjà quand on a dit que dans la Haggadah de Pessah, on dit que les Chachamim, ils sont tous allés chez Rabbi Akiva. Or, dans les Chachamim qui étaient chez Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Lezer, il y avait Otshua, qui sont les maîtres de Rabbi Akiva. Et dans l'ordinaire, ce sont les élèves qui vont chez les maîtres et pas les maîtres chez les élèves. Et pourquoi ils sont allés chez Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva était le chef, en quelque sorte, spirituel en tout cas, de la révolte contre les Romains. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans un espèce de bunker. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas vu par la fenêtre que le soleil se levait, le jour commençait. Les élèves sont venus leur dire que c'était le matin. Pourquoi on a besoin de leur dire que c'est le matin? Tu vois bien par la fenêtre que c'est le matin. Et on ne voyait pas, c'est un bunker, il n'y avait pas de fenêtre probablement. Et donc, en vérité, ce qui s'est passé, c'est effectivement cette mort des élèves de Rabbi Akiva. Et là, on comprend pourquoi on parle de Rabbi Akiva et pas des autres. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que d'entendre ici que les élèves de Rabbi Akiva sont allés faire la guerre, avec l'accord de leur maître. C'est pas avec l'incitation de leur maître. Et du coup, c'est devenu une période de deuil. Et à part ça, Nagba Omer, c'est pas non plus quelque chose de spécial. Je crois que pratiquement tout le monde est d'accord que ce n'est pas vrai que ce soit l'anniversaire de la Ptira de Rabbi Shimon. Mais bon, on a le droit de fixer un jour en souvenir de lui, même si ce n'est pas ce jour-là. Mais bon, parce que je crois qu'on a des documents, des indications qui montrent que ce n'est pas ce jour-là qu'il est Nifta.
Par le fait que les élèves de la guerre sont, parce qu'on a fait notre époque, on ne peut pas, donc on ne peut pas se servir de ça.
Ça, et les choses, c'est très difficile de prendre modèle sur une époque qui était très, très différente de la nôtre.
Ça peut être un.
Peut-être, il y a sûrement des gens qui vont prendre appui là-dessus, mais il y a d'autres aussi importants qui ne vont pas prendre appui parce qu'ils vont considérer que les choses sont. On ne peut pas déduire de ce que nous comprenons parce que. On ne sait pas exactement quels étaient les tenants et aboutissants de cette affaire-là. Il faut dire, si vous voulez un peu plus complet, c'est que nous, si nous sommes là, c'est parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas fait comme Rabbi Akiva. Et même à la fin, même après la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est celui qui a mis en place la structure d'un judaïsme sans Beth Amikdash, sans la terre d'Israël, et être dispersé dans tout l'Empire romain. Ça, c'était jamais arrivé. On a déjà été en Galoute, mais on était rassemblés, plus ou moins rassemblés, mais rassemblés. Dans l'Empire romain, c'est complètement éclaté, quoi. Donc, on n'était pas chez nous, on était. Était confronté à des civilisations idolâtres, une sorte d'idolâtrie, parce que les Romains n'étaient pas regardants. Et Rabbi Akiva est réputé avoir reproché à Rabbi Yochanan ben Zakkai le fait qu'il n'a pas demandé aux Romains. Quand il en avait l'occasion, il n'a pas demandé que les Romains lèvent le siège de Jérusalem. Et bien sûr que personne ne sait exactement quel était le raisonnement de Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais à la limite, même moi, je peux donner une raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas fait ce que dit Rabbi Akiva. Parce que si on avait à supposer que les Romains aient accepté le deal, d'accord, ils vont lever le siège. Mais pourquoi il y a un siège et pourquoi on a perdu finalement? Jérusalem avait des quantités astronomiques de réserves. Ils pouvaient tenir un très 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 long siège. Seulement, il y avait là-bas les fameux zélotes, là, des cités. Ils voulaient faire la guerre contre Rome et ils voulaient pas qu'on reste comme ça à soutenir le siège. Et donc ils ont mis le feu à toutes les réserves. ont dû faire la guerre. Ils ont perdu. Et Jérusalem d'Après peut très bien avoir pensé que même si on lève le siège cette fois-ci, ces gens-là, ils vont jamais se plier à la domination romaine. C'était, on pouvait rien y faire. La Rome, c'est pas la petite Judée qui va tenir en échec l'Empire romain. Et donc, on aura la même situation. Et même si on arrivait à reconstituer des réserves pour tenir un nouveau siège, hein, mais ils vont les brûler de nouveau et cette fois-ci, on n'aura peut-être pas l'occasion d'obtenir quoi que ce soit. Et on a obtenu Yavne, qui a sauvé le clan d'Israël. Donc ça, c'est cette fameuse période intermédiaire, qui est une période de construction et d'arrachement à l'idolâtrie et de construction de quoi? De construction de la seule chose qui peut nous permettre, qui peut nous garantir d'une certaine manière, on va pas retomber dans l'idolâtrie et dans l'esclavage. C'est quoi? Ben, c'est d'être esclave d'Hachem. D'accord? Parce que ce qui vous permet de résister à quelqu'un qui vous, ou un peuple qui vous propose de devenir son esclave, c'est le, vous allez répondre, mais je suis déjà esclave de quelqu'un d'autre. Donc je ne peux pas être esclave de toi parce que je suis déjà esclave de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la, il n'y a rien à redire. Quelqu'un vous dit, répond, je ne veux pas être esclave, on peut lui dire, mais tu sais, il y a quand même bien des avantages à être esclave, etc. Tu n'as pas de problème de t'as pas à craindre de ne pas avoir à manger. T'as pas à craindre de ne pas avoir de toit, etc. T'as pas de problème de budget, etc. Il y a des avantages à être esclave. Mais là, on n'en discute même pas parce qu'on peut répondre, je ne suis pas disponible, j'appartiens déjà. Et d'ordinaire, être esclave de celui-ci plutôt que celui-là, c'est pas toujours très avantageux parce que quand le maître de l'esclave est un homme, ou une société où cherche son intérêt et pas l'intérêt de l'esclave. Mais Hachem, il n'a besoin de rien. Donc il ne cherche pas son intérêt. Et donc, en fait, les choses, on va devenir esclave, mais il n'y aura que les avantages à être esclave. Donc, le gros avantage, c'est normalement, on ne devrait plus pouvoir être esclave, qui que ce soit d'autre, parce qu'on est déjà esclave d'Hachem. Mais c'est un esclavage qui ne nous abaisse pas, qui est pour nous plutôt que d'être contre nous. Donc c'est ça le travail. Sortir de l'esclavage égyptien ou tout autre esclavage, et dire, l'esclavage pour moi c'est une forme faible d'idolâtrie, je l'ai déjà dit après ça. Et entrer dans l'esclavage, Avadim. C'est surtout vrai parce qu'en réalité, il n'y a pas de mot en Lashon HaKodesh pour dire l'esclavage. D'accord? L'esclave, c'est un oved, c'est un eved, oved, un travailleur. L'idolâtrie non plus, on n'a pas de mot. On dit avoda zara. Le mot, c'est une avoda. Mais l'avoda, c'est l'avoda du travail profane, c'est l'avoda au Beth Amikdash, c'est toutes les avodas sont incluses, relèvent du même mot avoda. Seulement celle-là, elle est étrangère. Zar, c'est étranger. C'est même pas avoda, chikrit, sheker, ou etc. Même pas, rien du tout. D'accord? Et même les idoles, on les appelle des Elohim Acherim. On n'a pas Elohim Shikrim, on n'est pas des dieux, des faux dieux. Acherim, d'autres. C'est quelque chose qui, quand j'étais plus jeune, me dérangeait, quoi. Pourquoi on dit que c'est d'autres dieux? Je sais pas, je peux vous dire Acherim.
Le fait que ce soit volontaire, puisque je choisis d'être trouvé de la chaîne.
c'est un esclavage, mais l'esclavage, il n'y a rien de mal à être esclave, dans la mesure où ce n'est pas contre moi. Le problème de l'esclavage, c'est quelqu'un qui. Pourquoi Hachem dit, je ne veux pas que tu sois esclave? Parce que vous êtes mes esclaves, qui l'im né à Israël,
Ça
Avadim.
votait bien dans notre monde.
C'est nous, on est Avdei Hachem, et fiers de l'être.
La liberté, là, de parler.
Alors, c'est ça. Le problème, c'est que quelque part, ce qu'on a reçu avec les louchot, le fait que ce qu'Hachem a mis sur les louchot, il l'a gravé. Gravé, ça se dit charout. Et le mot charout, c'est le même mot que cheroute, qui veut dire liberté. Et donc on dit que la liberté, ce qui est charout à la louchot, ce qui est gravé sur les louchot, c'est ça la vraie liberté. Parce que c'est une loi qui est pour moi, qui est pour le bien du monde, qui est pour le bien de la terre, du monde, de le mien, etc. C'est le bien.
C'est une liberté qui est humble, parce que je perds mon ego, mais par rapport à ce que je viens à dire.
Le problème, c'est justement mon ego, c'est pas quelque chose d'extrêmement positif. On a besoin d'un petit peu d'orgueil, parce que sinon on est un mollusque. On a quand même besoin de suffisamment de un petit peu d'orgueil. Bon, c'est Yaakov Avinu qui dit à Hachem, je suis trop petit, je suis écrasé par tout le bien que tu me donnes, que tu me procures. Et du coup, ça m'écrase. Comment tu veux que je me tienne debout devant toi? J'ai plus de colonne vertébrale. Et donc, la Gemara, elle dit, il faut avoir un huitième de huitième d'orgueil. Et pourquoi la Gemara, elle dit un huitième de huitième? C'est pas parce qu'elle ne sait pas faire la multiplication. D'accord? C'est pas vraiment ça. Et c'est parce que 8 de 8, c'est le huitième verset de la huitième paracha de la Torah. Et c'est ça le verset. Kotonti. Je suis trop petit, je suis écrasé par tous les. Vous voyez, une dracha comme celle-là, c'est une dracha qui est construite sur quelque chose d'historique. Parce que ce verset soit dans la huitième paracha, ça vient du fait que nous lisons la Torah en un an. Mais comme vous savez, il fut un temps où on lisait la Torah en 3 ans. À cette époque-là, la dracha ne pouvait pas être faite. On ne pouvait pas faire la dracha de huitième de huitième. Cette dracha que fait le Gaon de Vilna, on n'aurait pas pu la faire. Donc c'est intéressant de voir que la Torah, c'est une Torah qui évolue, si on peut parler comme ça, avec le temps, avec le. D'accord? Ça évolue parce que cette dracha, elle appartient à la Torah. Mais elle appartient à la Torah, à la Torah de ces gens qui lisent en un an. Et toutes sortes de leçons qu'on tire de la juxtaposition de cette paracha avec cette paracha, etc. Ça marche parce que c'est des parachutes séparés et qu'on peut mettre en place, pas simplement on pourrait dire c'est des versets, mais quand ça dépasse le verset, c'est seulement parce que les parachutes n'existent que parce qu'on lit en un an. Quand on lit en 3 ans, vous n'avez pas, on va avoir des parachutes qui sont un tiers ouais, bah évidemment, le découpage ne sera pas le même. Même pas sûr que toutes les parchiotes, nos parchiotes sont découpées en trois. Le découpage en trois, sur 3 ans, va peut-être être complètement différent. Bon, peut-être, y a des règles, qu'est-ce qu'on va mettre dans une paracha, on va la construire un peu cette paracha.
Donc, un temps qui nous correspond.
Pardon?
C'est un temps qui nous correspond
C'est
alors.
ça. C'est parce que nous sommes des gens de l'ère dans laquelle on lit la Torah en un an. Alors, ça ne veut pas dire que les. Alors c'est quoi le pshat? Si ce n'est pas ça, la Torah, elle a toujours été comme ça. Donc, quand Chazal on dit Shminit, Shemesh, Minit, il faut dire que les Rachamim, si c'est ça, ils pensaient, ou ils vivaient eux déjà à un moment où on lisait en un an, ou alors ils pensent pour quand on va lire en un an, ou alors il y a un autre sens à Shminit, Shemesh, Minit, que je ne connais pas. Alors bien sûr que Shmini, ça fait, si on va d'après le Maral, Shmini c'est toujours le au-dessus, c'est voilà ma base, c'est l'extraordinaire, c'est hors de la des lois de la nature. Alors est-ce qu'il faut réfléchir sans ces termes de huitième, en dehors des lois de la nature, ça veut dire. Je ne sais pas, évidemment, peut-être que c'est normal que je ne sache pas, dans la mesure où, quelque part, je n'appartiens pas à cette ère dans laquelle on lit la Torah en 3 ans. Non, c'est important de savoir que la Torah, c'est notre Torah. Il y a des drachot qui ne marchent que pour nous. C'est tout. Et pourtant, pardon? Je ne sais pas exactement où ça s'est arrêté, mais ça s'est arrêté assez vite.
Le principe de la loi orale.
De?
C'est le principe de la
Oui,
loi.
c'est ça. La Torah chez Baal Peh, elle dépend des gens qui la produisent. Et ces gens-là, ben, ils sont datés, ils appartiennent à une époque plutôt qu'à une autre.
Mais après, je peux revenir dans la vie. Est-ce qu'il y a aussi une coïncidence du fait que tous les ans, les gens ne savent pas ce qu'ils reviennent pas, etc., par rapport à l'objectif de bien faire dans la guerre contre les Romains et la guerre à est-ce que là-dedans, c'est ça, les moments où ça s'arrête, le fait que tous les jours, on doit travailler sur quelque chose. C'est une gravation pour se débarrasser de quelque chose. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette demande et ce qu'on nous demande de faire dans la Torah? Ou est-ce que...
Comme tu sais probablement, il y a des gens qui ont considéré justement, étant donné qu'on travaille sur 7 jours, dans les sphirotes, si on prend les sphirotes du bas, les 7 sphirotes du bas, il y a 10 sphirotes, les 3 grandes et 3 principales, et ensuite il y a 7 sphirotes qui descendent jusqu'à la malchoute. Et donc les gens ont associé une de ces sphirotes à chacune des 7 semaines. Et dans chaque semaine, il y a 7 jours. Donc, ils ont repris ces sphirotes. Donc, on a fait par exemple, le Gvura Shebe Chesed ou Chesed Shebe Gvura ou des choses comme ça. Alors, mais ça reste toujours attaché au jour. C'est pas à la date du calendrier. Du calendrier goy, enfin, plus même. Mais c'est toujours, ça c'est toujours, et ça arrive toujours le 15 Nissan. Donc le compte du Lomer commence toujours le 16 Nissan. Et alors, comme on a dit, il peut arriver un Shavuot d'être le 5, 6 ou le 7 Sivan, mais c'est toujours 7 semaines avec toutes cette. Donc dans cette lecture-là, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail pour essayer de dire qu'est-ce qui doit être travaillé en fonction des sphirotes qui sont attaché à cette journée-là. C'est-à-dire que si tu es dans une semaine de chesed, donc ton travail principal doit être chesed, et puis dedans, il faut moduler chaque jour une progression. Tu vas avoir chesed chez chesed. Ce jour-là, il faut éclater en chesed, quoi. Et après, une certaine rigueur dans la chesed, etc. La royauté, la beauté, etc. De ces jours-là, qui sont des jours de chesed. Ensuite, on va faire la même chose avec la Gvoura. Donc, c'est possible que si tu veux regarder, tu peux aussi regarder cette période de 32 jours de mort des élèves de Rabbi Akiva. S'arrête à Lag BaOmer. Donc, Lag BaOmer, en plus, c'est bon, c'est le 33e jour de l'an mère. Et donc, il correspond toujours à une combinaison de sphirot. C'est toujours, exactement lequel c'est, mais bon, c'est toujours quelque chose qui fait que 33, c'est 28 plus 5. D'accord? Donc, ça veut dire c'est 4 semaines et 5 jours. Donc, ça veut dire que c'est le quatrième des Sphirot. Et 5 et la cinquième Sphira, c'est-à-dire la cinquième à l'intérieur de la quatrième. Toute une semaine consacrée à la quatrième. Et le cinquième jour dans cette 5 sur 7 de cette semaine-là. C'est ça, Lag BaOmer. Donc, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Maintenant, il y a une surdimensionnée parce qu'on dit que c'est la Hiloula de Rabbi Shimon. Alors, la Hiloula, c'est quelque chose qu'on ne fait pas pour tout le monde, a priori, parce qu'Hiloula, c'est une fête. Et cette fête-là, on la fête pour Yard Site, à l'anniversaire de la Ptira. Donc, on va dire qu'il s'agit de noces mystiques, voilà, de Rabbi Shimon. Par les morts, il arrive au ciel, donc c'est les noces mystiques. Alors, bon, ça c'est les noces mystiques, elles sont précédées de jours durant lesquels les gens sont morts, quoi. Et ils ont arrêté de mourir à ce jour-là. Donc, comment est-ce qu'on va. En plus, difficile de parler de mort à certaines sphirotes qui ont l'air d'être relativement joyeuses, quoi. Alors, on n'a pas dit que c'est la Hiloula des élèves de Rabbi Akiva. Ce qu'on aurait pu dire, c'est la Hiloula. Ils étaient grands, bon, ils ont fauté. Mais je crois que ce qui est très, très important dans la Bohème, c'est que Rabbi Akiva, qui a été évidemment touché, si tous ses élèves qui sont morts, Rabbi Akiva, il n'a pas baissé les bras. Il est allé, comme on dit, il est allé dans le sud. Le sud, c'est le côté de la Chokhma. Il a choisi 5 élèves. Et ce sont ces 5 élèves qui sont ceux qui ont diffusé toute la Torah de Rabbi Akiva. Et nous vivons sur cet enseignement des 5 élèves. Un des élèves, c'est Rabbi Shimon. Voilà, je suis en train de passer l'heure. Je m'en excuse. Il n'y aura pas de cours dimanche prochain. Ni mercredi soir. Hein. Ni mercredi soir, ni dimanche prochain. Donc, vous avez de grandes vacances.
Une grande veillée surtout et 2 jours de fête.
Maria propose de réviser, donc peux pas dire le contraire. Hein.
Raksamea. Teilim?
Ah mère, ok, bien
Teilim?
sûr. Yes.
Yoshev Seter Elion Betzel Shaddai Shlonal. Omar l'Adonai Marsi Mesulati Ula Yuftarbo. Kiwatzilecha Mipar Yakush Medever Avos.
إفراس ويسخلخ وتخات كنفاف ترتسي سينا وسخيخا ميدو لو سيخا مي بخل ليلة مي خشيو في يومام مي دفع باوفل يالر مي كتاب يشول سورايم يبول مي سيدخا إلف ورفافا مي منخا إليخا لو إيجاش רק בניך סבית ושלומת חושבים תראה, כי אתה אדוני מעשי עליון שמת מעונך, לא שעונה אליך רע ונגע לא יכחב בעליך, כי מלאכה וסבל הר ישמורך בכל דרריך, על כפיים שעונך פן תגוב באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך ככוס ופיך וגנים, וחשק ופלטהו וסבהו כי ידע שמי, יקראיני ועיניהו עמו אנוכי וצרה אכלסהו וכבדהו, אורך ימים אז ביהו וראי בשבשי.
Et la valeur du Canada, il y a un merveilleux. Les prix même animal, les prix chaval, les barres. À l'hôtel, maman, ça lui est ça, il y a un autre son rêve. Il est le dernier veillé au chat de son habitat. À l'hôtel, je vais ça, de même, il est ça, à y aller. Regarde, la chaîne est bleue, il y a des cartes, il y a des cartes à la main. À l'hôtel, si ton rêve, il faut le voir, il faut le la fête. À l'hôtel, si ton rêve, il faut le voir, il y a ça, il y a des
שיר המעלות ממלאכים פרשו פרדמון. אדוני שמעה וצריתי נעזים פרשבות לכל תחמים. בנה ומה תשמור על אדוני מי יעמוד, ומי חב לך למען צבאה. תגיד שאדוני תשתה נפשי ולדברו אחד, כי נפשי לאדוני משומרים לעבור כאל שומרים לבו. לכן ישראל אל אדוני, כי אדוני יחסת והרבה נפשי ויוצא את ישראל מכל אדוני.
חג שמח.
Merci.
Merci. Bonsoir.